Fragmentaire sur Radio Gameuse avec nous. Muraliste et illustrateur au style futuriste très épuré, la palette de Dino Vaudou orne la 46e édition du Mur d'Épinal. Artiste épanoui dans le domaine des représentations bidimensionnelles futuristes, il donne vie à un pan de son imaginaire à partir du 12 septembre et ce jusqu'au 1er novembre pour le 46e Mur d'Épinal. C'est à cette occasion que je suis allée à sa rencontre et que nous avons pu échanger quelques mots. Mais avant tout, bonjour Dino, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien. Je suis très content d'être à Épinal. Merci de l'invitation.
Dino Vaudou, c'est un nom d'artiste qui attise la curiosité de tous. Et j'imagine qu'on a pu te poser la question plus d'une fois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de ce nom d'artiste ?
Ouais. Moi, je viens du graffiti. À la base, j'ai commencé en 89. Et dans le graffiti, on a tous, à un moment donné, à choisir un nom, ce qu'on appelle un blaze. Et généralement, c'était 4 lettres. Donc, moi, j'ai pas tout de suite choisi Dino, ça a été un peu plus tard. Mais je suis resté sur le choix des 4 lettres. J'ai choisi Dino parce que, comme tout enfant, et je suis un grand enfant, même encore à mon âge, j'adore les dinosaures. Et donc, voilà, c'est tout bête, je suis parti sur le mot Dino par rapport aux dinosaures. Et Voodoo, c'est parce que j'avais fait une exposition à la galerie Montana à Montpellier, la galerie de bombes de peinture. Et mon exposition était sur le Voodoo, la Nouvelle-Orléans. Et voilà, c'est resté parce que c'était bien référencé et je l'ai gardé. C'est un peu long et dur à porter. La plupart du temps, on m'appelle Dino, on reste là-dessus. Mais voilà, vu que je suis référencé sur Internet sur Dino Voodoo, je le garde, parce que si on fait que Dino, on tombe sur les dinosaures, et voilà, donc on ne trouvera pas. Je suis un vieux dinosaure, mais pas autant. Ouais.
Décris-moi comment, du bout de ton pinceau, tu as tracé le chemin de ta vie qui t'a mené jusqu'ici.
Oula, ça a été un très très long parcours. Je sais pas si je vais tout dire, parce qu'il y a des choses un peu secrète, mais non, pour faire court, tout petit, j'ai toujours aimé le dessin. J'ai eu un grand-père incroyable qui sculptait, qui m'a appris beaucoup de choses, les ombres, les lumières. Il me faisait toujours des silhouettes en bois avec des animaux, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je peux faire avec mes dinomorphes, avec mes créatures. Je vous expliquerai tout à l'heure un peu ces personnages, ces créatures dans l'univers. Mais il y a un peu un rappel à ce que faisait mon grand-père. Ensuite, j'ai eu un parcours un peu chaotique à une certaine période. Et du coup, je suis parti à l'armée. Je suis parti faire mon service militaire, que je voulais pas faire. Mais parce qu'à la base, je voulais faire objecteur de conscience. Et je me suis retrouvé en camp semi-disciplinaire, en fait, à Châteaulin. C'était pas la fête, c'était pas génial, c'était pas ce que j'avais choisi de faire. Et il nous a proposé de partir au Liban, en fait, comme casque bleu. Moi, j'avais envie de voyager, j'avais besoin d'argent, donc j'ai signé avec des potes. C'était un peu la condition, on partait à plusieurs. Et donc, arrivé là-bas, c'était incroyable, parce qu'on rencontre plusieurs cultures. Parce que moi, j'allais en Israël tous les 15 jours. On a pu faire aussi, pendant les vacances, on va dire, la possibilité de partir dans des destinations qui étaient un rêve de gosse, qui j'aurais peut-être pu jamais faire. C'est-à-dire que grâce à ça, j'ai pu partir en Égypte, voir les pyramides, Khéops, Khéfren, Mékérinos, le musée du Caire. Et c'est des choses qu'on retrouve dans mon travail, les anciennes civilisations. Donc ça, c'était incroyable d'aller voir Byblos, Baalbek, tous ces temples en fait anciens, et de se rendre compte de la puissance de ces monuments, de ces structures, et de se dire à un moment donné, waouh, c'est qui a construit ça. Donc il y en a plein qui vont partir dans le côté évémérisme, théorie des anciens astronautes, en disant que c'est des extraterrestres qui ont construit ça, que c'est pas possible que ça soit humain. Moi, j'en suis pas persuadé. Au début, j'étais un peu dans cette logique-là, et je le suis plus du tout, parce que c'est un peu une insulte à des peuples qui ont eu, je pense, une grosse connaissance, un grand savoir qu'on a perdu. Et donc voilà, je dégraisse un peu, là, je vais un peu dans tous les sens, désolé. Mais c'était vraiment, je suis tellement passionné par mon travail et puis, et tout ce que je fais. Donc, voilà, l'armée. Donc, je commence à peindre la base. Et je rentre en France. Et donc là, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir redémarrer ma vie, hein, qui était un peu chaotique au départ. J'ai plus confiance en moi. J'ai de l'argent. Donc du coup, j'investis dans mon premier ordinateur, ma première imprimante, et je me lance en fait dans ma vie, je me mets à mon compte, et je commence à devenir, à en faire un métier, c'est-à-dire d'être graffeur. Donc c'était, il fallait un numéro de sirette hein, pour être payé. Donc les gens, ils hallucinaient quand ils demandaient à chaque fois la case à cocher, bah vous faites quoi dans la vie ? Les graffeurs, ça n'existait pas, quoi. Ou c'était artiste comme aujourd'hui. On a un peu inventé des métiers. Aujourd'hui, c'est complètement banal, mais à l'époque, ça n'existait pas, quoi. Il y a 30 piges, quoi. Et donc, voilà, je me suis lancé, puis petit à petit, je me suis fait un réseau, je me suis fait des contacts, mon nom a commencé à circuler, l'image aussi, et mon style a évolué pendant plusieurs années, en fait. Parce que beaucoup d'influences, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'amour, de passion pour plein d'autres peintures que le graffiti. Et donc voilà, on aura le temps d'en parler et puis de développer un peu plus longtemps quoi, le sujet. Quoi. Mais voilà un peu le parcours, quoi, toi, si tu veux. Donc, un gars qui, comme moi, voulait pas du tout faire l'armée. En final, c'est pas que l'armée m'a sauvé, mais ça m'a donné la possibilité déjà de croire en moi. Et puis voilà, quoi, de grâce à... Bah oui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. Donc, grâce à ce fric, bah, j'ai pu me lancer et puis d'être là aujourd'hui à ce que je fais. Quoi, et je continue. Voilà.
En tant qu'artiste, est-ce qu'il y a une œuvre, un mouvement, un film ou un jeu vidéo même qui t'ont marqué ?
Plusieurs questions dans ta question.
Ouais, un petit peu beaucoup.
Ouais, ouais. T'as 4 heures. Mais ouais, ouais, plein d'influences, comme je disais tout à l'heure. Moi, fan de science-fiction, donc en SF, ce que j'aime, c'est les films, par exemple, de Ridley Scott, comme Alien, 8e passager. Parce que Ridley Scott, ce que j'aime dans son cinéma, c'est que dans la science-fiction, il fait surtout aussi la science, c'est-à-dire qu'il va faire il va prendre des mecs qui ont des connaissances et les compétences scientifiques pour pouvoir l'aider sur ses films, en se disant comment ça va être dans le futur. Et c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est un peu semi-documentaire, réaliste, finalement, dans un film. Et c'est pour ça que ça n'a pas vieilli, parce qu'on regarde des films qui ont plus de 30 ans, et qui sont encore soit d'actualité, ou c'est peut-être comme ça que ça pourra fonctionner plus tard. On n'est pas dans de la SF avec beaucoup de détails, et puis, je suis pas trop fan, moi, de Star Trek ou ce genre de choses, quoi, en fait, quoi. Bande dessinée aussi, les comics américains, des mecs comme Jack Kirby. Donc l'idée des Marvels, hein. Aujourd'hui t'as beaucoup de Marvels qui sortent au cinéma, moi j'en suis pas fan, je préfère vraiment la BD, quoi, le côté papier. J'aime beaucoup des mecs comme Basil Walterton, Virgin Fayley, des gars qui dessinaient dans les années 30-40, donc on est plus proche de du dessin en gravure. C'est des mecs qui illustraient beaucoup de Pulp Magazine à l'époque. Donc on est sur du noir et blanc surtout. Donc voilà, c'est un peu un hommage à ces gars-là aussi sur ce que je fais aujourd'hui, en cette semaine, sur le mur d'Épinal. Musique, ça va être justement de l'OST, quoi, de la musique de film. Donc on parlait tout à l'heure d'Alien, mais Ridley Scott il avait fait aussi Blade Runner à l'époque, qui est un chef-d'œuvre, encore aujourd'hui. Et la musique derrière, bon, t'as Vangelis. Jerry Goldsmith sur Alien, donc c'est des gars qui composaient de la musique et qui créaient une ambiance, une atmosphère pour justement créer une immersion pour le visiteur, pour le public. Et du coup, finalement, quand moi je bosse, j'écoute ce genre de musique. Enfin, à la base, je suis vraiment hip-hop, électro-musique, mais quand je bosse, j'ai besoin de calme, en fait, enfin de calme, juste de la musique. J'aime pas écouter des paroles. Ça va me perturber, ça va me casser un peu ma bulle.
J'aimerais qu'on aborde un petit peu ta pratique artistique. Quels sont tes médiums et tes supports de prédilection ? Parce que j'ai cru comprendre que tu es pluridisciplinaire.
Ouais, ouais. Moi, à la base, comme je te disais, moi, je viens du graffiti. Donc, on est plutôt sur des murs bruts, hein, tout ce qu'on trouve. C'est pour ça quand je peins des toiles, je déteste le support toile en fait, la texture que ça peut avoir. Je trouve ça vraiment trop synthétique, sophistiqué, trop pas assez brut justement. Donc ce que je fais quand je fais des toiles, je vais mettre du mortier en fait dessus pour casser cet effet-là et d'avoir justement l'aspect, la texture qu'on a sur un mur. Et ouais, sinon en outils, pas outils sur les murs, ça va être la bombe au départ. J'en utilise un tout petit peu moins. J'étais un peu fâché avec la bombe à un moment donné. J'étais fâché un peu avec le mot street art. Venant du graffiti, en fait, nous, on a défendu notre mouvement pendant très très longtemps. Il y a encore 10 ans, on nous jetait encore des cailloux sur la tête quand on disait le mot graffiti. Et aujourd'hui, toi, avec le street art, c'est un terme qui passe un peu partout, finalement. Quoi, mais il y a beaucoup de personnes qui se servent un peu de ce mot et de ce mouvement pour de la politique, pour faire passer des idées, alors qu'ils ne connaissent pas du tout ce mouvement. Ils ne l'ont jamais aidé, ils ne l'ont jamais compris, certains ne le comprendront jamais. Donc nous, on est encore là, on est toujours passionnés. Donc voilà, donc à un moment donné, moi j'en ai eu un peu marre, j'ai lâché l'affaire avec ça. J'ai coupé les ponts avec la bombe pour pouvoir le rekiffer. Là aujourd'hui, je le rekiffe à mort et je rejoue avec le spray, mais pas pour des trucs autorisés, quoi. C'est vraiment, je retrouve les sensations de peindre sans autorisation et d'aller où tu veux, en fait, d'être libre de peindre sur n'importe quel support sans avoir demandé l'autorisation. Ça, c'est hyper important. Et donc, la bombe, pour ça, c'est un outil qui est intéressant, ce qui te permet de travailler vite. Il pleut, c'est pas grave, ça sèche tout de suite, donc ça coule pas, contrairement à l'acrylique. Et ça prend pas de place. Tu mets ça dans un sac à dos, toi, t'es pas obligé de te trimballer des pots de peinture et tout plein de matos. C'est un truc, si t'as envie d'être nomade, voyager, c'est ça qui est cool, quoi. Et l'acrylique, sinon, pour faire du muralisme. Pour rejoindre un peu pour faire un pont en ce que je disais avec le graffiti et le côté d'être nomade, c'est pour ça aussi que je suis parti sur du noir et blanc pour Épinal. Eux, ils s'attendaient, je pense, à ce que je parte sur de la couleur. Quand on regarde mon site et tout, ce que je peux faire. Moi, toi, venant de Rennes, je suis venu en train, il y avait des changements. J'avais pas envie de me charger à bloc, parce que d'habitude, je prépare toutes mes peintures, mes pigments, je peux fabriquer mes teintes. Et donc je me retrouve finalement avec, je ramène ma baraque en fait, je ramène tout quoi, tout mon atelier. Donc c'est assez lourd, chargé. En plus, toi, il y a mardi, là, c'était la France qui se mobilise. Apparemment, ça devait faire un peu plus de bruit. Bon, je savais pas trop où j'allais quoi. Je dis, attends, je vais peut-être rester pendant un mois bloqué à Épinal quoi. Attends, on sait pas quoi. Attends, finir à vivre dans la forêt quoi. Attends. Donc voilà, je suis parti avec, en gros, avec juste des pinceaux, et ici j'ai bossé avec juste du noir, du blanc, et voilà, puis moi j'adore ça en fait, je trouve que c'est hyper efficace le noir et le blanc, c'est très contrasté, t'as pas droit à l'erreur, j'aime bien jouer sur l'équilibre en fait, et puis vu que je pars sur la BD, moi la BD je sais que je vais la faire en noir et blanc, là je voulais vraiment ce côté ancrage, vraiment la ligne claire, et puis qu'on ressente ce que je vais faire sur papier, de le faire sur le mur. Donc là, c'est la première fois que je fais une case de ma BD, en fait, sur un mur, c'est la première ici. Et puis voilà, ça va être la suite après, quoi. Donc là, c'est une case parmi tant d'autres, en fait. Tous les murs que je vais faire, ça va être une petite histoire qui va se raconter par rapport à ce personnage que j'ai créé, tout cet univers que j'ai développé. Que je vais t'expliquer tout à l'heure quand on ira voir le mur, je te guiderai, tu vas me suivre et puis on va faire une petite plongée, on va prendre un vortex et puis on va aller se plonger dans la fresque quoi, on va faire un voyage cosmique.
Avec grand plaisir. J'aimerais parler un petit peu de ton processus en fait, quand tu prépares tes projets, comment tu définis le choix de la thématique ? Bon, là j'ai cru comprendre que c'est une première case d'une BD, donc une histoire à suivre. Mmh. Est-ce que aussi ton choix, les médiums, les dimensions, des contraintes ?
Ouais, je vois très bien où tu veux aller. Là en fait, t'as raison de parler de ça, parce qu'en fait c'est une grosse contrainte, c'est-à-dire que tu vas avoir... un choix qui s'offre à toi. Si t'as un mur qui est vertical, si t'as un mur qui est horizontal, enfin, on va dire paysage ou portrait. Toi, mon personnage que j'ai développé là, dans mon univers, il a des jambes, il a un buste, il a des bras. Là, un mur comme celui-ci, si je dois le faire en entier debout, il serait tout petit. Pour moi, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Là, je voulais vraiment, du coup, je suis parti juste à représenter sa tête, son casque. Donc là, il a sa tête qui sort de l'eau, mais il peut très bien être debout, ou si j'aurais pu le faire allongé, j'aurais pu le faire assis. C'est toujours la question que tu te poses en fonction soit du format, le temps, est-ce qu'il va pleuvoir, le temps aussi, combien t'as un jour, deux jours, quatre heures, une heure. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, et sur laquelle, justement, quand tu crées ta maquette, ta décision va peser, ça va peser sur ta décision. Et du coup, je suis parti sur quelque chose de plutôt, j'avais pas trop le choix, c'était en long, c'est un côté paysage. J'ai rajouté, toi, les montagnes, les collines, parce que pour moi, on était quelque part, enfin, Épinal, pour moi, ça représentait, je suis jamais venu ici, mais pour moi, c'était, en imagination, j'imaginais des grandes montagnes, des grandes rivières, et puis la nature qui allait aussi bien avec toi, l'histoire que je raconte. Il y a un côté très faisons attention à notre planète, quoi, toi, à notre maman, quoi. C'est je sais pas, c'est important. Faut arrêter là, toutes les conneries avec les missiles et les de tout bousiller, de tout casser, de tout démolir, de tout raser, quoi. C'est à un moment donné, on n'aura plus rien, on n'aura plus de flotte, on n'aura plus d'air. C'est pas pour tout de suite, hein, mais je pense que c'est moi, en tout cas, voilà, ces petits messages que j'aimerais passer dans ma peinture, dans mon univers. En tout cas, c'est ça. Faire attention, parce qu'en fait, tout mon histoire, en fait, c'est un personnage qui vient sort des planètes à la base qui sont arides, qui n'ont pas de vie, qui sont vierges. Donc, on est un peu comme dans la Genèse, ça. C'est des planètes qui sont vides, et lui, en fait, sa mission, c'est de venir ensemencer ces planètes et de créer de la vie, en fait. Donc les humains sont pas encore là, ça va se développer petit à petit, ça va prendre son temps. Donc il y a un côté très onirique, en fait, dans mon travail, très poétique, et on n'est pas dans la SF bourrin avec des vaisseaux qui tirent partout, des mecs qui se butent dans des couloirs ou sur des planètes. Non, moi je suis plutôt sur un truc plus paisible et puis vraiment très très sauvage, brut, primitif. Quoi, c'est vraiment un côté où tout laisser le temps aux choses, en fait, des années, des millions d'années, en fait, que les choses puissent pousser, se développer. Et voilà, quoi. Et voilà, nous en 50 piges, on a tout flingué, quoi. voilà. C'est pas de notre faute. Hein, on est comme ça. C'est humain. Mais voilà, il y a des gens, heureusement qu'il y a des gens qui font en sorte de freiner, en fait, certaines personnes qui, eux, n'ont pas ces idées-là, qui n'ont pas d'empathie, qui n'ont pas de sensibilité, qui regardent peut-être pas autour d'eux, regardent pas dans le ciel, les étoiles, et qui trouvent que tout ce qui est autour d'eux est moche, quoi. Alors que quand tu prends ton temps, tu te rends mal en forêt, tu regardes autour de toi, surtout le ciel étoilé. On le regardait encore hier, on parlait d'astronomie avec une personne du mur, et voilà, une passion aussi chacun de toi pour les étoiles, pour des choses qui soient intouchables, justement, quoi, dans une société dans laquelle on est où faut aller vite, où tout le monde a envie de posséder tout et tout de suite, et puis voilà, les choses qu'on peut pas toucher, c'est ça qui est bien, c'est que voilà, on reste humain, on n'est pas que le nombril du monde, quoi. Il y a peut-être justement quelque chose d'autre ailleurs, plus grand que nous, et j'ai envie de croire en ça, et de faire peut-être comprendre aux gens que arrêtez de vous regarder de votre nombril et lâcher un peu les réseaux et regardez dehors, quoi. Ils sont peut-être déjà là et ils sont peut-être en train de voler au-dessus de ton jardin, quoi.
Tu nous fais nous évader dans ton monde, dans ton monde avec ses histoires, avec son style, parce que j'aimerais revenir là-dessus quand même. C'est un style, tu as parlé de lignes claires et aussi des formes géométriques assez simples. Moi j'y ai vu quelque chose, tu peux me dire si je vais trop loin, mais un petit peu les affiches des premiers films au cinéma, à savoir l'affiche de Metropolis, je crois que c'est La Femme sur la Lune, ou même Un Voyage sur Mars. Est-ce qu'il peut éventuellement y avoir un lien aussi avec ces affiches de films anciennes, mais qui sont aussi dans la veine de la science-fiction.
T'as tout compris, parce qu'en fait, moi j'adore les affichistes, des gars comme Cassandre, entre autres, hein, qui ont pu faire à l'époque Dubon, Dubonnet, qui faisaient toutes les affiches, toutes les publicités en fait à l'époque. C'est marrant parce que toi, quand tu lis la biographie et les livres de Cassandre, il n'y en a pas beaucoup, moi j'en ai quelques-uns, et lui aurait voulu être un peintre, et ça a été toute sa souffrance toute sa vie, mais les gens à l'époque le considéraient pas comme un peintre, parce qu'il faisait de la publicité. La publicité, c'était quelque chose qui était pas du tout accepté pour dans le milieu artistique. Et pour moi, en fait, c'est un des plus grands peintres du monde, quoi, ce gars-là. Bon, à la fin de sa vie, il faisait des décors de théâtre, donc il s'est rattrapé. Mais ouais, moi j'adore en fait l'illustration, en fait. Tout va bien, toi, j'ai plein d'histoires à raconter. C'est pour ça que la BD, en fait, c'est un format qui permet en fait de prendre son temps, case par case, et que les gens puissent plonger dans cette histoire et prendre le temps. Mais quand t'as pas le temps, en fait, l'illustration sert à ça. C'est-à-dire qu'en une seule image, tu peux raconter justement toute ton histoire. Donc là, tu joues, t'es obligé de connaître justement les cadrages, les équilibres, surtout quand tu rajoutes de la typo. Donc toi, justement, quand tu fais des affiches de concerts ou autres, la typo est très importante. C'est les informations premières. Donc ton image, c'est soit elle passe derrière, ou dans ces cas-là, faut qu'elle reste juste sur un petit carré, et ta typo, elle va prendre tout le reste, quoi. Cassandre, lui, il a cassé les codes, c'est qu'il rentrait ses typos dans les marges. Ça se faisait pas à l'époque. Pour revenir à Metropolis, c'est marrant que tu parles de ça, parce que, avec Yann, l'outsider, qui a déjà exposé justement ici dans cette galerie, c'est un bon pote, on travaille souvent ensemble. Et nous, on fait beaucoup de cinéma, en fait, pas en tant que réalisateur, hein, de peinture sur des cinévilles, sur des Gaumont. Et du coup, on était parti à Nantes sur le 14A, un vieux bâtiment. Et du coup, ça rejoint aussi ta question de tout à l'heure, si il y avait une importance, le format, le lieu. Et donc, en tout cas, moi, personnellement, quand je travaille, je fais toujours une recherche sur le bâtiment. Je fais en sorte, quand j'habille un mur, de prendre les couleurs peut-être des choses qui sont à côté. S'il y a du bois, je vais jouer avec toi, les textures. Un peu comme Anarchy pourrait faire, ou un designer, quoi. Un peu pour se fondre aussi avec le reste. Je sais que les bâtiments qu'on aime peindre, c'est des bâtiments qui sont à l'ancienne, un peu en mode Dada ou Bauhaus, des bâtiments années 30-40, quoi, un design complètement fou et avec des formes géométriques. Donc du coup, quand toi, tu apportes un style affichiste et surtout de cinéma comme Metropolis de Fritz Lang, toute la SF des années 30, 40 ou années 20, justement, t'as ce style déjà qui est à l'ancienne, donc t'as tous les vêtements aussi qui sont dans le film, les gens ils sont habillés comme ça, et tu as l'abstraction géométrique qui intervient énormément dans ce genre de film de l'époque, sur les films en noir et blanc, les costumes, et donc voilà, c'est pour rejoindre aussi la question que tu me posais, au niveau des différents styles que je peux avoir. Moi, je suis passé au tout départ, quand j'ai commencé, par le figuratif, faire des portraits, des choses très réalistes. Ça m'a saoulé. En fait, j'aime pas trop rester dans des cases. Enfin, j'aime pas me mettre des barrières. Donc, à un moment donné, il y a eu une évolution dans mon travail. Et aujourd'hui, donc, je suis passé par l'abstraction géométrique après. Alors, mes potes, ils comprenaient pas. Ils disent, mais comment ça se fait que tu faisais des trucs hyper réalistes et maintenant tu fais des ronds, des carrés et des triangles, quoi. Attends, on est tous capables de faire ça. Genre, moi, je faisais des gommettes, quoi, comme à l'école, quoi. Et je dis, ouais, mais en final, c'est hyper compliqué de faire de l'abstraction, surtout géométrique, parce que t'es obligé d'avoir une connaissance des outils comme les compas, faut être propre, faut être hyper rigoureux, faut savoir construire dans l'espace, toi, comme Kandinsky pouvait faire, Maes aussi. On a l'impression que l'abstraction, c'est très, très simple, mais en fait, c'est très compliqué, parce que t'es obligé d'épurer, synthétiser tout le travail que t'as pu faire avant, pour arriver en fait à un seul résultat. Et ça, des fois, c'est très dur de faire le choix, de se dire « Ah, j'ai trop envie de mettre un œil là, j'ai envie de mettre un petit détail », là, t'oublies. Tu épures total, c'est-à-dire ton œil se transforme soit en triangle, soit en rond. Et surtout qu'en plus, quand tu fais la géométrie sacrée, il y a aussi soit de l'ésotérisme derrière, des recherches justement sur le symbolisme, les peuples premiers, différentes cultures, le chamanisme, toi, il y a des codes. Moi, je me suis aussi beaucoup intéressé aux symboles qu'il y avait aussi dans la franc-maçonnerie, hein, sans être dans la franc-maçonnerie du tout, mais en fait ça m'intéressait tous leurs symboles, j'ai creusé savoir mais d'où viennent tous ces trucs quoi, parce qu'on les retrouvait dans l'Égypte ancienne, et donc du coup j'ai vu que ça venait, de l'Égypte ancienne, il y avait beaucoup de choses, donc, ce qui me rapprochait justement toutes les choses que je mettais dans mon travail avec Isis, Osiris, avec justement des symboles comme l'étoile de Sirius qu'on peut retrouver dans les pyramides, l'orientation des pyramides qu'Efren Mekerinos par rapport à la chambre de la reine et la chambre du roi, orientée soit par rapport à la constellation d'Orion ou l'étoile de Sirius et puis derrière les Pléiades. Donc tout ça en fait, je le mets à chaque fois dans mes fresques, il y a toujours des petits symboles, des petites touches, un peu comme sur les icônes orthodoxes aussi, il y a toujours une petite typo. Des symboles, soit d'étoiles, c'est des choses qui peuvent guider en fait quand t'as le code en fait tu peux déchiffrer tout de suite, alors que quand t'as pas ces notions tu passes devant et tu fais c'est quoi en fait, tu sais pas quoi. Et c'est le problème de la franc-maçonnerie, c'est qu'en fait eux ils veulent tout cacher en fait aux gens, au peuple. Et je pense que le but pour moi l'art en fait il doit être il y a pas de secret quoi, tout doit être ça doit être ouvert pour tout le monde, accessible à tous, quoi. C'est comme les musées, c'est comme nous, l'art qu'on fait dans la rue, c'est offert à tout le monde. Même si toi, t'as une prestation qui est payée, la plupart du temps, le public, les gens qui se déplacent, personne qui passe avec son chien, tout à l'heure, on a une petite mamie qui est passée, qui posait des questions, tout de suite, il y a un contact qui se crée, un dialogue, un respect. Et puis à un moment donné, c'est même plus la question qu'on pose à l'artiste, c'est l'artiste aussi pose la question à la personne qui lui a posé cette question la première fois. Et la personne se lâche, et puis moi, la petite dame, du coup, elle me parlait de son vécu, de son sentiment, tout ça, ce qu'elle peut vivre dans la société qu'elle comprend plus aujourd'hui, quoi, parce que on est tous connectés, et puis eux pas, quoi. Donc, eux, ils sont dans l'ancien monde. Pas que, hein, moi aussi, je suis dans l'ancien monde. Et aujourd'hui, on est tous connectés à un téléphone, bientôt ça sera des puces dans la tête, et pour moi ça va trop loin, parce qu'on est déjà atteint un stade où on se parle à peine, que les gens ils prennent plus trop le temps en fait de se connecter réellement ensemble, toi connecté par la pensée, par le cœur, la beauté de l'être humain qui peut être quand il est bon quoi, t'as, et en fait la machine en fait c'est bien qu'on puisse se servir de la machine pour pouvoir évoluer, avancer dans le temps, mais il faut pas que la machine se serve de nous. Moi, je suis pour la technologie. Si demain, quelqu'un perd une jambe en rentrant de la guerre, par exemple, on a la possibilité de créer une prothèse robotique, d'avoir ou le transhumanisme, mais sans partir en cacahuète, en délire total, où le mec veut virer tout ce qui est humain et le changer en machine, non, ça sert à rien, Coco, quoi, calme-toi, quoi, C'est déjà assez compliqué.
C'est l'homme bicentenaire à l'envers.
Ouais, c'est ça. C'est ce que j'aimais dans Metropolis, hein. On est en plein dedans. C'est comme George Orwell avec 1984. Tout le monde était là, genre, à l'époque, c'est complètement dystopique, ça n'arrivera jamais. Si, on le vit, là. Depuis des années, on est en plein dedans, quoi. Alors qu'on nous a prévenus, c'est ça le problème. Mais l'humain, en fait, il faut toujours qu'il se retrouver devant le danger, devant le gouffre, en fait, pour à un moment donné se poser les bonnes questions, et puis à un moment donné de se dire là il faut faire quelque chose, quoi. Le seul truc que je peux dire en fait sur les cyborgs, les robots, c'est tous les vues en coupe, toi les vues de coupe, quand tu as dessin technique en fait pour voir justement grâce à cette vue de coupe on comprend que c'est quelque chose de robotique ou d'organique en dessous, c'est pas humain du coup. Donc, celui-ci, en fait, il n'est pas du tout humain, cette espèce d'entité. Pour faire des voyages dans le temps, de toute façon, il ne pourrait pas biologiquement. Donc, c'est obligé que ça soit un cyborg, un androïde, pour pouvoir faire tous ces voyages qui sont lointains et qui prennent du temps. Quoi. Donc, et en même temps, dans ces formes de vue de coupe, ça permet aussi de montrer des choses où je n'ai pas forcément la place dans la fresque de pouvoir les mettre. Donc du coup, à l'intérieur, c'est comme un travail que j'ai pu faire d'introspection là pendant des mois avant de venir ici, parce que j'en avais besoin. Enfin, j'avais besoin de me comprendre moi-même et puis de comprendre les autres aussi. Et donc, j'ai fait une plongée à l'intérieur de mon corps finalement. Donc en fait, c'est un voyage intérieur et c'est ce que j'essaye de donner en fait dans ma peinture. Et ces vues de coupe représentent un peu ça, quoi. C'est-à-dire que t'as un peu une visibilité un peu une transparence, comme si je montrais un peu mon temple secret, j'ouvre un peu plus mon cœur et mon âme aux autres, quoi, plutôt que de se cacher et tout, de rester bloqué, quoi. Parce que j'ai fait un gros travail aussi d'atelier, et puis et à un moment donné, je sortais même plus, quoi. J'étais que dans du travail d'études, de recherche, et à un moment donné, c'est assez pesant, et puis tu commences à perdre pied, il faut être en contact avec les uns et les autres, quoi. Mais c'est important de passer par là, en fait, il y a plein de phases, il y a plein d'étapes. C'est la vie, c'est comme ça, quoi. C'est des ascensions, quoi. C'est marche par marche pour arriver à son but, justement. C'est pour ça que l'étoile de Sirius a cette représentation dans mon travail. C'est que, voilà, c'est l'étoile qui guide, c'est l'étoile la plus lumineuse du ciel, et c'est comme un phare dans la nuit, ou pour un marin, voilà, c'est ce qui va le sortir du naufrage ou de la tempête. Ça permet de suivre le bon chemin et puis de se laisser guider par cette lumière. Voilà, c'est notre maison, la maison à rejoindre, quoi. Go home, Sirius.
J'ai envie qu'on parle, ça y est, du mur. Ouais. Je crois que tu veux m'emmener pour aller le voir directement.
Eh ben allez, on y va.
Bon, je crois, Dino, que tu as ouvert une faille spatio-temporelle et tu nous as emmenés tous les deux directement devant la fresque du mur. Raconte-nous un petit peu la genèse, en espérant ne pas être trop gêné par les voitures derrière.
Voilà, on a été téléporté, Monsieur Spock, sur une autre planète. On a Épinal. Donc devant le mur, et là on peut observer le visiteur en question, le personnage principal de mon histoire, de mon univers. Donc physiquement, il a un aspect amphibien, bon, c'est pour ça qu'on le retrouve dans l'eau, avec une petite tête de poisson, quoi, avec sa petite bouche devant, sa petite bulle en verre, son petit casque. Et toi, sa petite crête, ses petites oreilles, c'est un petit poisson. Donc alors, c'est marrant parce que s'il est debout, s'il est avec ses jambes, ça fait un personnage. Et puis finalement, juste la tête, ça pourrait être un peu un vaisseau ou un poisson qui sort de la surface, de l'eau. Et ça fait un peu aussi, du coup, avec ces formes abstraites qui sont ici, ça rappelle du coup tout le travail d'abstraction géométrique que j'ai pu faire pendant des années, plus le travail sur les cyborgs et les androïdes que j'ai pu faire justement sur Metropolis, tous ces visages sur les cinémas que je faisais futuristes. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le temple intérieur, tout ce petit côté mécanisme qui fonctionne comme des synapses à l'intérieur d'un cerveau ou du corps humain. Donc référence au film aussi Aventure intérieure et Voyage fantastique à l'époque, en SF. Et il y a ce côté aussi, vu que ce personnage lui vient sur des planètes qui sont vides, vierges, pour pouvoir les ensemencer et créer de la vie, il y a un côté un peu donc genèse, mais il y a aussi un côté un peu arche. Tu vois, il a un savoir, une connaissance, une petite bibliothèque en fait de cellules, de l'ADN de différentes planètes qui sort de sa tête, on va dire, qui va venir ensemencer. Alors il faut que ça soit des planètes qui aient de l'eau dans mon histoire, parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et donc lui, il commence à mettre les premières graines, les premières cellules dans la flotte, ce que j'appelle des dinomorphes, toi, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, les quatre premières lettres dino. Bon, les dinomorphes, parce que ce sont des petites créatures en perpétuelle évolution, un peu comme dans le film The Thing, toi, de John Carpenter.
Oui.
Quoi,
oui, oui.
En contact avec quelqu'un ou quelque chose, la créature va se transformer, donc à l'infini. Et donc, une fois dans l'eau, dans mon histoire, ça va se passer comme ça, c'est que ça va se transformer comme un petit poisson. Petit à petit, il va avoir des pattes. Ce poisson va sortir sur le continent avec ses pattes, et il va évoluer petit à petit pour devenir quelque chose d'autre. Mais ça, je vous raconte pas tout au niveau de la métamorphose de ces créatures, parce que je ne veux pas tout spoiler non plus mon histoire.
Eh oui, il faut avoir envie de regarder tes autres cases de BD, donc tes autres murs.
C'est ça. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que ces bestioles-là, eux, leur fonction première, c'est de créer en fait des structures, de faire pousser des plantes pour que ça devienne des structures organiques et créer des jardins d'Éden. Tu vois, pour que plus tard, le personnage du visiteur puisse ramener des personnes comme des humains par exemple, et moi dans ma BD il y aura la première Ève en fait à arriver sur des planètes, Donc on retrouve à côté son petit vaisseau, là, tu vois, comme une forme d'œil, comme un ovni, en fait, des plus classiques. Donc là, j'ai pas joué sur la texture, mais normalement, il a un côté un peu texture astéroïde. Pour revenir un peu, rejoindre ce qui se passe actuellement avec... En ufologie, on peut parler du docteur Avi Loeb, qui est professeur à Harvard aux États-Unis, et avec ses élèves, et que tous leurs appareils observent cette espèce d'astéroïde qui s'appelle Atlas 1, qui se rapproche de la Terre en ce moment, mais il y avait Oumuamua quelques années avant. Et donc la question que les gens se posaient, est-ce que c'était justement un vaisseau extraterrestre venant d'ailleurs, s'approchait de la Terre, attention, attaque, invasion. Donc voilà, chacun est allé dans son délire. T'as les sceptiques qui vont faire non, faut s'arrêter de délirer, c'est du complotisme. Moi, j'ai envie d'y croire que ça existe, la vie ailleurs. Moi, ce que j'aime, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté scientifique. Mais non, quoi dire de plus sur la fresque, je crois qu'on a fait le tour.
Ton univers futuriste est... Globalement, quand on voit ton compte Instagram ou les sites internet, c'est en couleur. Là, c'est en noir et blanc. C'est un peu la surprise. Est-ce que tu veux expliquer ce choix ? Je suppose que ça a peut-être un lien avec le fait que ce soit une première case de BD.
C'est ça, t'as tout compris. Après, t'as des cases de BD qui sont en couleur, mais connaissant tout ce que j'ai pu t'expliquer tout à l'heure, moi, mes références et mes passions des comics américains, j'ai les deux. Quand j'achète la BD, j'ai la BD en noir et blanc et j'ai la BD en couleur. Et je trouve ça vachement plus fort, en fait, quand c'est en noir et blanc. Parce que ça, c'est pareil. Souvent, en BD, t'as des gens, ils vont dire, tu vois, pour prendre l'exemple de Jack Kirby, tu vas lire un Hulk, un Marvels. Les gens, ils vont faire... ils vont croire que Kirby, il a tout fait. Et en fait, Kirby, lui, il va dessiner. Et après, derrière, les gars, en fait, ils prenaient des encreurs. Donc t'avais un encreur, un coloriste, un scénariste. Tu vois, c'est pas juste un gars qui a fait ça, quoi. Ça, c'est sont plusieurs. Donc moi, en fait, la couleur, c'est compliqué. C'est soit t'es très très bon, soit ça demande un travail énorme. Et moi, c'est assez pesant. Je la maîtrise, la couleur, mais j'ai mes couleurs. Mais pour faire une bande dessinée, pour moi, c'est très laborieux, quoi. C'est très compliqué. Donc le noir et blanc, il y a une facilité, il y a un contraste fort, la rapidité. Donc ça te permet d'avancer un peu plus vite aussi dans ton histoire. Tu ne restes pas 10 heures sur une case. Sachant que moi, la plupart du temps, je faisais tout encore il y a quelques années à la main, à l'encre de Chine, à l'ancienne, avec des plumes. Et maintenant, je bosse tout à la Wacom, je bosse au stylet sur ordi, quoi. Mais ouais, le noir et blanc, puis parce que j'en fais du noir et blanc, mais je le mettais jamais sur les murs. Et c'est vrai que la plupart des gens, en fait, je sais pas. Alors c'est soit c'est pas qu'ils aiment pas, c'est qu'ils sont pas prêts. Je sais pas, ils sont peut-être habitués trop à la couleur justement, et pas au noir et blanc. Donc voilà, bon, on va casser les codes.
C'est une manière d'interpeller aussi le spectateur et de les faire entrer aussi, qu'ils soient intrigués par l'histoire que tu veux nous raconter.
Aussi, bah regarde là, en plus, t'as beaucoup de bagnoles qui passent là assez vite. Le noir et blanc, t'as un côté hyper... tu te le prends dans la tête tout de suite. Tu passes en bagnole, tu le comprends, paf. Alors que si c'est en couleur, t'es obligé de prendre un peu plus le temps. Tu vois, t'as plus d'informations.
Je vois.
Ouais. Alors que là, bah, en fait, c'est efficace tout de suite... C'est rapide, c'est brut.
C'était intense comme voyage, hein. Merci de m'avoir transporté devant le mur, tant d'expliquer à moi, tant qu'aux auditeurs, un petit peu l'histoire de ta fresque, qui sera, je le rappelle, visible à partir du 12 septembre et jusqu'au 1er novembre à Épinal. D'ailleurs, dis-moi, qu'est-ce que tu attends pour cette exposition ?
Que les gens plongent dans mon univers, le comprennent. Et sinon, je sais pas, peut-être d'autres projets ici, voilà, peut-être que ça va plaire à d'autres personnes, et puis, je sais pas, peut-être pour un festival, musique ou autre, un cinéma, justement, ça, pourquoi pas, une expo, peut-être ici, prochainement, ça me plairait aussi. Moi, je suis ouvert à beaucoup de choses, plus je travaille sur ma passion, plus... plus mon art se déplace et se transporte justement ailleurs, bah c'est cool, j'ai gagné quoi. Moi, si je peux faire ça toute ma vie, le plus longtemps possible, moi je suis happy, hein, moi je prends quoi. Continue à peindre tant que je peux et rester un grand gamin, de rêver encore et de faire rêver les autres si c'est possible.
Eh bien, je te souhaite de continuer à rêver et de nous faire rêver. Merci à toi, Dino, pour ce temps que tu as accordé à notre échange.
Merci à vous.
Influencé par la science-fiction, l'utopie, les anciennes civilisations et le rétrofuturisme, le langage graphique de Dino Voodoo nous guide dans un voyage cosmique et initiatique à travers l'espace-temps. Il téléporte le spectateur dans des décors surréalistes, composés de formes géométriques aux aplats de couleurs vives et contrastées, même noir et blanc cette fois pour le mur, rappelant le constructivisme et l'abstraction géométrique. Il assemble et recompose ainsi ses univers afin de créer une narration singulière. Alors allez découvrir le mur de Dino sur le mur d'Épinal qui sera inauguré ce soir vendredi 12 septembre à 18h et qui sera visible jusqu'au 1er novembre.
Fragment d'art sur Radio Gameuse avec nous.